session sur la personne par le père Philippe le 11 juillet 1989 à Saint-Jodard.
Je réponds d'abord à quelques questions posées. Alors, à propos de la définition de Boès sur la substance, sur la personne, qu'est-ce que rajoute individuel dans la définition de Boès? Une substance individuelle de nature rationnelle. C'est pour qu'on comprenne bien que la substance est prise là dans sa réalisation concrète. L'individu est ineffable. La substance, on le verra, pas commode. La substance, elle peut se réaliser, on peut en parler à des niveaux différents. Alors on peut parler de la substance concrète, individuelle, c'est celle qui existe. Je suis une substance. Et vous aussi. C'est-à-dire que vous avez votre détermination fondamentale. La substance, c'est la source de toutes les déterminations. On est déterminé en ce sens que on a une nature humaine. Je n'ai pas une nature angélique. Je n'ai pas une nature de vache. Du moins, j'espère. J'ai une nature humaine. On est déterminé, on a des qualités. On a aussi de manque de qualités. C'est la substance individuelle, ça. Et c'est pour ça que la personne, c'est cette substance individuelle, dans une nature rationnelle. Alors, autonomie dans l'ordre de l'être. Oui, ça, c'est justement le fait que la substance donne une détermination bien précise. Cela me distingue des autres. Pour être autonome, il faut être distinct des autres. Il faut avoir en soi suffisamment de richesse pour être autonome. Vous avez l'autonomie au niveau politique. On fait une politique d'autonomie. Vous avez une autonomie au niveau affectif. Je ne dépends de personne. La devise, quand j'étais au Solchoir chez les Dominicains, il y avait en face, de l'autre côté de la Seine, un château dont la devise des gens qui l'habitaient, ne jamais rien demander pour ne jamais rien devoir. Vous voyez ce que ça exprime? Ne jamais rien demander pour ne jamais rien devoir. Bien, c'est ça l'autonomie. On est suffisamment autonome. Au point de vue de la vie, un château fort qui lève les ponts pour garder son autonomie. On lève les ponts. Et si quelqu'un s'approche, on jette de la poix. Écartez-vous. Je suis autonome. C'est très curieux l'autonomie, vous voyez. Alors, l'autonomie dans l'être, c'est la substance. C'est au fond, c'est la substance, l'autonomie dans l'être. La substance nous donne une autonomie dans notre être. Oui, nous étions dépendants quand on était dans le sein maternel. On a commencé par la dépendance. Puis on en a eu ras-le-bol. Au bout d'un certain temps, on est né. Puis, on est resté dépendant pendant un certain temps au plan psychologique, point de vue éducatif. Puis on est devenu indépendant. Quand vous connaissez parfaitement, vous êtes indépendant. Quand on connaît parfaitement une matière, on est indépendant. Puis, au plan politique, quand vous connaissez mal la politique, vous êtes dépendant de votre journal. Là, vous avez la couleur du journal, la couleur de la Sainte Croix, la couleur de l'humanité, la couleur de... et ainsi de suite. Vous dépendez. Oui, ça, on voit très bien. On comprend l'autonomie du fait que l'autonomie nous rend indépendants. On est autonome. Autos, grec. Ça veut dire soi-même. On est soi-même. Autonome. C'est grec. On est soi-même, parfaitement soi-même. Vous voyez, en grec, pour exprimer l'autonomie, on exprime le katoto. Katoto, selon soi-même. On est selon soi-même. On ne subit aucune influence. Dès que vous subissez des influences, vous n'êtes plus autonome. Vous subissez des influences. Tandis qu'au contraire, influence psychologique, influence affective, influence au point de vue connaissance. Alors, vous n'êtes pas autonome. Quand vous avez la maturité, une maturité psychologique, on est autonome. Vous voyez, ça rejoint bien ce que je vous disais ce matin à propos de Charles Audier. La personnalité implique l'autonomie. Alors là, c'est au niveau psychologique. C'est beaucoup plus facile à comprendre. Mais l'autonomie, mais philosophique au niveau de l'être, c'est la substance. Alors, il y a d'autres questions, mais celle-là, je n'y réponds pas tout de suite, parce que j'espère pouvoir y répondre après. Dieu crée-t-il une personne ou une âme ? On répondra à ça. C'est très bon comme question. Gardez-la. Mais il faut de temps en temps avoir des questions, n'est-ce pas, qu'on se pose. Y a-t-il une interaction entre ces différentes luttes vécues au niveau psychologique ? Quelle en est l'origine ? Est-ce l'âme ? À ça, je vais y répondre. L'éthique repose-t-elle sur la personne ou la nature humaine ? Seconde question que je laisse en suspens. Ce sont des questions très importantes. Alors je vous les laisse longuement découvrir vous-même. Comme ça, vous les comprendrez. C'est la vieille méthode socratique. Chacun doit découvrir par lui-même. Comme ça, on se dit intelligent. On est heureux et la découverte qu'on a faite demeure. Tandis que si vous recevez la découverte par au-dessus de vous, vous êtes humilié. Et donc vous la recevez mal. Alors, je vais regarder maintenant au plan psychologique. Je comptais y revenir du reste. Parce que c'est important pour nous, ce point de vue de Charles Audier. Je prends Charles Audier parce que j'ai dialogué pendant un certain temps avec des psychanalystes freudiens. Pendant moins de 10 ans. C'est eux qui étaient venus me chercher. On avait fait le dialogue d'Aristote à Freud. Ça m'a beaucoup intéressé du reste. On se revoyait tous les 15 jours, une soirée. Et on avait pris comme règle de se dire toujours la vérité jusqu'au bout. Même si on devait s'engueuler. Et dire, vous n'y comprenez rien du tout. Et un beau jour, je vous raconte une petite histoire. Elle est tellement belle, celle-là. Une histoire vécue. Au fond, j'avais compris que tout le freudisme repose sur l'inconscient. Et j'avais pris la méthode socratique, qui est très bonne à prendre. Ah, vous dites inconscient. Mais donnez-moi une définition d'inconscient. Je savais qu'ils ne pourraient jamais m'en donner. Donc, je les coinçais sur leur terrain propre. Donnez-moi une définition d'inconscient. Et moi, je dis que l'inconscient se comprend par le conscient. Mais eux ne peuvent pas dire ça, puisque tout l'art freudien ou la science freudienne repose sur l'inconscient. Vous voyez, Freud divise la conscience et l'inconscient. La conscience, le devoir, on retrouve Kant, le devoir. Et l'inconscient, le plaisir. Alors, est-ce que le conscient est ordonné à l'inconscient ou l'inconscient est-il ordonné au conscient? Ça, je ferai un bon petit test. Oui, je mets deux flèches. Hein. Pour un freudien, l'inconscient est fondamental. C'est lui qui va tout expliquer. Et la psychanalyse consiste à découvrir les inconscients. À les faire exploser. Ce sont des mines. Il faut les faire décharger. Vous avez une charge d'inconscient, tous. Quand je leur disais j'en avais pas, vous savez, non, j'ai pas du tout. Mais non, j'ai pas d'inconscient. J'étais furieux du reste. On en a toujours un peu. Je faisais ça exprès pour les faire marcher. Parce qu'il faut les faire marcher. Un peu d'humour. Parce que Freud n'en a pas beaucoup. Ça, je vous affirme, c'est toujours très sérieux. Alors, l'inconscient, tout repose sur l'inconscient, les charges d'inconscient. Et la psychanalyse consiste à désamorcer l'inconscient, dans le faire éclater. Parce que nos inconscients sont les nœuds. C'est pas si mauvais. Au fond, on est construit par un tas de choses dans la vie. Notre personnalité actuelle. Elle implique des luttes. Et alors, eux, l'inconscient, découvrir le premier inconscient, on ne le découvrira jamais. Découvrir le premier inconscient. Et toute la psychanalyse consiste à vouloir découvrir le premier inconscient. Ils ne peuvent pas le découvrir. Par définition, il est inconscient. Comment découvrir l'inconscient? Je peux découvrir un inconscient fondamental. J'avais un père très autoritaire. Chaque fois que j'exprimais un désir, non, la négation fournait les inconscients. Mais c'est vrai, dès qu'il y a un barrage, il y a un transfert. Mais un transfert très simple. Le gosse, je vous donne un exemple, vous allez tout de suite comprendre. Le gosse a faim, il crie après le biberon. Et puis le biberon n'est pas chaud, qu'est-ce qu'on fait? Parce que la mère en a assez de l'entendre crier. Alors, elle prend un petit amusement, une petite sonnette. Elle fait sonner ça. Ah, et il transfère. On oublie le biberon et on regarde la sonnette. Ça ne dure pas très longtemps. Pour le gros carillon après. Alors à ce moment-là, on peut, si on est intelligent, on arrive à s'amuser de transfert en transfert. Puis on arrive comme ça que le biberon est chaud, ça va. Puis dès que vous donnez le biberon, le concupiscible s'y mêle, et alors à ce moment-là, c'est merveilleux. C'est le ronron, c'est ordinaire. Et il n'y a plus besoin de transfert. Parce que l'instinct a directement son but. Vous voyez, il le prend immédiatement. Donc c'est facile à comprendre l'inconscient. Le sevrage est toujours, très souvent, sous un premier inconscient. Et l'autorité du père. On On est tellement bien avec sa mère. On la possède. Le père vient. Allez, quand ça va finir, viens, il est temps, tu es là depuis une demi-heure. Viens, vite. Gosse, c'est lui, c'est sur son dos. Et le père ne s'en occupe pas du tout. On cherche l'inconscient. Alors, l'inconscient, impossible de le définir pour un freudien. On donnera des explications, tous les actes manqués, c'est l'inconscient. Les actes manqués, c'est pas l'inconscient, mais les actes manqués proviennent. Non, mais il y en a d'autres. Les actes manqués proviennent de l'inconscient. Pour essayer de sortir. C'est très curieux. Toujours est-il qu'on ne peut pas expliquer. Alors, fatigué des questions à la manière socratique, qu'est-ce que c'est ? Donnez-moi une définition. Moi, si je n'ai pas de définition, je ne comprends rien. Donc, donnez-moi une définition. Qu'est-ce que c'est que l'inconscient ? On les agace comme ça. Au bout d'une heure, vous avez été fatigué. Quand vous discutez avec des freudiens, la meilleure détente, c'est d'aller au zoo. C'est la meilleure détente. C'est ça. C'est merveilleux. On retrouve des animaux. Le genre animal. On était trop raisonnable, puisqu'on voulait définir l'inconscient. Alors on se repose. Et puis on va toujours au singe. C'est normal. Alors on est arrivé à un endroit, je vois encore l'endroit, c'était merveilleux. On arrive là, et il y avait le couple, la mère, qui venait de mettre au monde son tout petit. Alors elle le tenait admirablement sur elle, et on voyait le petit crâne, du petit comme ça, un petit crâne. Elle était très heureuse avec ce petit, sur elle. Et le mâle s'agitait. S'agitait, mais vraiment, une agitation. Alors, évidemment, tout de suite, l'interprétation freudienne. Oui, il est jaloux. Parce que tout le monde regardait le crâne du petit. C'est vrai, c'était beaucoup plus beau à voir. C'est beau, le crâne de petit singe qui vient de naître. C'est très doux. Il y a un duvet. Bon. Et tout le monde, alors, est jaloux. Je crois pas du tout, je crois qu'il avait faim. Alors, au bout de 5 minutes qu'on regardait, on voit, comme ces singes étaient méchants, on n'entrait pas dedans. Et on fourrait comme ça, par le bas. Ce qu'on donne aux singes, c'est-à-dire des choux, des carottes, des pommes de terre, de toute espèce de choses. Ça allait dans tous les sens. Alors à ce moment-là, on a assisté à une scène extraordinaire. Ah, je dis bien très extraordinaire. Je crois qu'elle était pour les freudiens. Préparée pour ça. La femelle, avec son petit, s'approche d'un gros chou qui n'était pas loin d'elle, du reste. À ce moment-là, le mâle bondit. Il a fait ça 5 fois. J'ai retenu. 5 fois. Elle a choisi comme ça. Alors, est-ce qu'il laissait la femelle choisir ? Elle avait meilleur goût que lui. J'en sais rien. Puis, ayant pris les 5 gros morceaux, parce qu'elle prenait tous les gros morceaux. Elle ne prenait pas la petite carotte, non, non. Elle prenait les gros morceaux. Il a fait un geste magnanime. Extraordinaire. C'était magistral. À côté de moi, il y avait une petite fille avec sa maman et son papa. C'était visible. Des gens très simples. La petite fille, après ça, dit « Oh, elle est gentille, la maman. » C'est extraordinaire. Oh, elle est gentille, la maman. Et alors, le père est à côté. Et dis donc, qu'est-ce qui gagne la croûte ? Alors, alors vous voyez, pour les psychanalystes, je vous affirme, je n'ajoute rien. C'était comme ça. C'était comme ça. Extraordinaire. Mais l'inconscient, le gosse s'identifie, ou plus qu'assurément, le gosse identifiait la mère. C'était la scène de ménage de tous les jours. On voyait bien comment ça se passait. Vous voyez, transposé, mais c'était la scène de ménage de tous les jours où elle est gentille, la maman. Qu'est-ce qu'il y a de la croûte ? Flurax, reprend ses droits. L'inconscient. Alors, à partir de là, vous définissez l'inconscient. Vous voyez, vous ne définissez rien du tout. Vous voyez que c'est vrai. L'homme est très souvent chargé d'inconscient. Il a des actes qu'il ne maîtrise pas entièrement, qui jaillissent comme ça. Soupape, tout d'un coup ça éclate. Alors, le freudisme repose donc sur l'inconscient. Et le conscient, c'est par moment le devoir. Et donc, vous voyez tout de suite, hein, la critique à Kant hein, par derrière. Kant, c'est le devoir. Et donc, la conscience, petite partie de mon psychisme. Le psychisme fondamental pour Freud, c'est l'inconscient. C'est celui qu'on porte en nous. Oui, c'est pas vrai, ça. Hein, qu'il y ait des refoulements, c'est vrai. Des refoulements, vous voyez bien, c'est notre appétit naturel qui se porte sur la confiture. En temps de carême. N'est-ce pas ? Pour le gosse. Et ça reste souvent assez longtemps. Là, il se porte sur la confiture. Et puis, il y a un interdit. Ah non, pas de confiture, c'est le carême. Et on a un appétit. Un appétit, par ça. Donc, il y a un arrêt, refoule. Le précepte négatif refoule s'il n'est pas totalement accepté par un bien supérieur, s'il n'est pas assumé par un bien supérieur. Alors, le refoulement, vous voyez, c'est pour ça que le bien supérieur n'est pas un transfert. C'est une manière d'assumer un bien inférieur qui est arrêté par un bien supérieur. Alors ça, c'est ce que j'appelle assumer. L'amour supérieur assume des quantités de choses inférieures. Et ça ne donne pas du tout un nouvel inconscient. Quand c'est pas assumé et que c'est vraiment refoulé, ça, l'inconscient alors, c'est vrai. Il y a des charges d'inconscient, comme on dit, qui demeurent. Alors, comprenez, l'angoisse, ce sont ces charges d'inconscient. L'angoisse. Tout le refoulement par rapport au futur. On est angoissé. Très souvent, l'angoisse naît à partir de ces interdits trop forts, des préceptes négatifs, qui nous ont empêchés de découvrir notre bien. Alors, ça nous a angoissés. Constamment. Il y a l'aliénation. L'aliénation, c'est par rapport au présent, donc l'angoisse future, le présent. L'aliénation, c'est encore de l'inconscient. Tout ça est imaginatif. C'est l'imaginaire. L'inconscient, c'est l'imaginaire. C'est un imaginaire, vous voyez, c'est un imaginaire second. C'est pas l'imaginaire spontané. quelqu'un qui a de l'imagination, qui part avec la fantasia, la fantaisie. Ça, c'est un imaginaire spontané. C'est que là, c'est à l'intérieur de quelque chose qui était refoulé et qui est gardé dans l'imaginaire. Donc c'est un imaginaire complexe. Et le poids de l'angoisse qui arrête tous les élans. L'angoisse arrête tous les élans. Donc arrête l'amour, l'aliénation. Je suis en face d'une autorité, d'une limite, quelque chose qui m'arrête. Je me sens plus libre. Je suis aliéné. Voyez. Donc, c'est par rapport à la liberté. Je me sens, mon champ de liberté est très limité. Je n'ai plus la possibilité de me développer. Puis alors, la culpabilité. Par rapport à ce que représente le passé. La culpabilité des actes, qui sont peut-être très peu de choses, voyez. Le gosse, tout petit, a fait une grosse bêtise. Il a renversé un pot de confiture quand sa mère était absente. Il a tout ramassé, tout jeté. Puis quand la mère est arrivée, elle demandait « Où est-ce qu'il est ?» Je me cherchais le pot de confiture. Oui. « Ah, je sais pas, il est disparu. » Il a menti pour ne pas avouer sa faute. Puis c'est resté. Oui. Je crois que la culpabilité repose sur les mensonges. Les mensonges de gosse. C'est pas grave. Mais on a gardé ça. Alors c'est une culpabilité. Grossir. Le scrupule, c'est un genre de culpabilité. Mais le scrupule, quand il est très fort, devient la culpabilité. Là, j'avance plus. Je crois qu'il y a en effet trois sortes, vous voyez, trois sortes de charges d'inconscient imaginaire qui viennent des refoulements. Trois espèces de refoulements. Ce serait très intéressant d'étudier ça de près. Je crois que ce sont les trois grandes formes. Je crois. Correspondant donc à ce que représente le point de vue de la sécurité, le point de vue de l'autonomie et le point de vue de la valorisation. Et la valorisation, vous savez que vous n'êtes pas plus bête qu'un autre, que vous avez quand même réussi certaines choses. Que ça ne va pas si mal. Vous valorisez. Oui. Et donc, on se valorise un peu. Vous voyez, se valorise. Quand la culpabilité augmente, mon moi de valorisation diminue. Il y a un équilibre qu'on sent. Il restera toujours un fond d'angoisse, un fond d'aliénation, un fond de culpabilité, toujours. Mais on ne s'en occupe pas, normalement. On ne s'en occupe pas, on l'a dépassé. Alors, à ce moment-là, on a un moi fort. Donc, il y a une lutte entre les deux. Le flux et le reflux. Oui, c'est le flux et le reflux qui est en nous. Et qui provient, vous voyez, de ce repli sur soi, plus ou moins fort, du milieu dans lequel on a vécu. Vous voyez, on pose la question... Y a-t-il une interaction entre ces différentes luttes vécues au niveau psychologique? Alors, pouvons-nous passer de l'un à l'autre? C'est sûr. Qu'est-ce qui est le plus profond? L'angoisse ou la culpabilité? Très difficile, il va y avoir. Qu'est-ce qui est le plus profond? Moi, je mets l'angoisse par rapport au futur. Donc l'angoisse serait moins profonde que la culpabilité. Il y a des culpabilités d'angoisse. C'est tout le passé qu'on porte. On n'est pas angoissé par rapport au futur. n'est pas angoissé, je veux dire, par rapport au passé. On est angoissé par rapport au futur. Et donc, de fait, c'est le vécu passé, la culpabilité. Et quand la culpabilité est très forte, elle nous inhibe complètement. Elle nous met dans un état d'angoisse. Phénomène d'inhibition. Donc, il y a une certaine interaction, vous voyez. Alors, l'origine, c'est le refoulement. Alors, on pose, est-ce l'âme ? Pas l'âme directement. C'est nos appétits naturels. Nos appétits naturels. Nos appétits naturels sensibles. Donc, qui relèvent de notre vie végétative. Ça, sûrement. Par rapport à l'aliment, la nourriture. Vous voyez, l'appétit naturel par rapport au bien sensible. Un appétit naturel extraordinaire vis-à-vis du chocolat. Ça dépend des personnes. Alors, dès qu'il y a un morceau de chocolat, mais c'est presque comme celui qui est un peu alcoolique, dès qu'il y a une bouteille, on ne peut plus le tenir. Il voit ça immédiatement. Un appétit naturel. Alors, on veut arrêter ça. On empêche ça. Mais pour les drogués, on parle justement du manque. C'est très significatif. Le manque. L'appétit naturel a été tellement développé, surexcité, que dès qu'on arrête, il y a un manque. On ne peut plus vivre. Celui qui fume, beaucoup, beaucoup, et qui au début du carême dit « je ne fumerai plus », c'est tout l'entourage qui explose. Parce qu'il n'arrive pas à dominer ça. Et alors c'est tout l'entourage qui fera le carême. Parce que de fait, c'est impossible, il n'y arrive pas. Il aura peut-être une très bonne volonté de le faire, mais ça ne va plus. Vous voyez, ça se porte immédiatement là, sur la mauvaise humeur, sur l'irascibilité. Parce que c'est le concupiscible. C'est l'appétit sensible du concupiscible. Normalement, quand le concupiscible est arrêté, il y a l'irascible. Et quand l'irascible est arrêté, vous voyez, vous avez, alors à ce moment-là, quelque chose qui réfrène et qui vous fait tomber dans cet inconscient. Là, naturellement, quand le concupiscible est arrêté, il y a la colère. On voit ça très, très, très nettement. Quand un chien est en train de renier un ours qu'il aime, il est plus méchant. Sauf s'il veut tirer l'ours. Alors là, ça. Autrement, non. Les oiseaux de proie, les charognards, comme on dit en Afrique, au Sénégal, les charognards, ils sont méchants quand on les approchait. J'ai vu une scène aussi très extraordinaire, c'est un petit port africain, tout près de Dakar. J'étais exprès le matin très tôt pour qu'il n'y ait aucun Européen. Elle a envoyé les bateaux pêcheurs arriver, encore comme au Moyen-Âge. On les met à la mer sous rouleau pour les jeter. Puis alors arrivaient les pêcheurs et alors on est là pour vider le poisson, le faire sécher. Alors tous les entrailles et jeter à côté et les charognards sont. Il faut les caresser. Ces oiseaux de proie, le concupiscible est tellement fort chez eux que vous pouvez les approcher, vous pouvez leur tordre le cou. Ils sont dans un état de suavité, de jouissance extraordinaire. L'appétit concupiscible. Quand il est arrêté, l'irascible. Immédiatement. Quand il n'est pas arrêté, on est content. On est euphorique. On est de bonne humeur. Et tout le monde est de retour. Après une bonne table, hein, du bon vin, tout le monde est heureux. C'est une espèce de satisfaction. Vous voyez ? Tandis qu'au contraire, si c'est pas bon, alors l'irascible qui se développe immédiatement. Vous voyez ? Qui se venge. C'est la vengeance. La vendetta par rapport au concupiscible. Et si c'est arrêté, alors à ce moment-là, il y a refoulement. Et le refoulement provoque l'inconscient. Alors, ce serait très intéressant, philosophiquement, parce que les psychologues décrivent. Donc, ils vous donnent ça. Mais il serait très intéressant, on y reviendra au terme, si on a le temps. C'est intéressant de voir cette description que la personnalité psychologique implique une victoire contre l'angoisse, contre l'aliénation, contre la culpabilité. C'est très vrai, ça. Et je crois que notre moi fort, notre sentiment du moi, il n'est fort que dans la mesure où il est victorieux. Et on est tout le temps dans la lutte, psychologiquement. Et psychologiquement, c'est constamment le drame. Le drame contre, justement, ces luttes qui nous... L'agression constante. L'agression du milieu, l'agression de l'autorité, l'agression des souvenirs. Vous voyez ? Et c'est dans ce sens-là où je crois que la culpabilité, c'est quand même ce qu'il y a de plus fort. Puisque l'agression vient de nous-mêmes, nos souvenirs. Tandis que dans l'aliénation, l'agression vient du milieu. Et dans l'angoisse, l'agression vient souvent de l'autorité. Bon, je ne dis pas plus. Je voudrais, avec vous, très rapidement, pour terminer cette petite enquête sur le point de vue de la personnalité, je voudrais regarder avec vous un aspect de la personnalité, alors beaucoup plus sérieux que les psychologues, la personne unité immédiatement co-vécue du vivre par expérience. C'est la fameuse position de Scheller, Marx Scheller, qui est très connue et très intéressante. Donc, dans le formalisme en éthique et l'éthique matérielle des valeurs, qui se présente explicitement comme un nouvel essai de personnalisme, Scheller affirme, je vais simplement vous rappeler ce passage, on n'a jamais le droit de penser la personne comme une chose. Oui, c'est ce qui revient constamment aujourd'hui. On doit respecter la personne et on ne doit pas la regarder comme une chose, comme on dit, comme un objet. Donc, ça c'est de Marx Scheller. Enfin, ça se dit toujours aujourd'hui. Et on doit regarder la personne comme un sujet. Alors, objet et sujet ont là des significations toutes nouvelles, toutes différentes de tout ce que la philosophie avait dit avant. C'est pour ça que c'est intéressant de voir les plaques tournantes où le langage prend des significations totalement différentes. Donc, je vous lis ce passage de Max Scheller. On n'a jamais le droit de penser la personne comme une chose ou comme une substance qui posséderait des pouvoirs ou des puissances quelconques, parmi lesquelles se trouverait entre autres un pouvoir ou une puissance rationnelle. En réalité, la personne est l'unité immédiatement co-vécu du vivre par expérience vécue. Erleben. Non point seulement une chose pensée derrière l'immédiatement vécu et hors de lui. C'est pas très commode à bien réaliser. Hein. Ça, c'est pas mon langage. C'est mon langage de Max Scheller. Je vous le donne par honnêteté, quoi. On voit très bien ce que c'est. Je vous le dirai au terme. Vous allez voir. Mais il emploie exprès des termes assez difficiles à comprendre, comme disent méchamment certains, quand on ne comprend plus, on emploie un mot sauvage que personne ne comprend. Vous voyez ? Alors on se met à l'abri du mot. C'est pour ça que constamment, les philosophes emploient des mots que personne ne comprend. Parce qu'eux-mêmes ne comprennent plus. Le vieux Boileau disait, ce qu'on comprend bien s'énonce clairement. Hein? Ça, c'est le grand bon sens. Il faut de temps en temps, quand vous voyez des philosophes parler avec des mots impossibles, enfin, je reprends, la personne est l'unité immédiatement co-vécue du vivre par expérience vécue. Erleben. Alors, on écarte non point seulement une chose pensée derrière l'immédiatement vécu et hors de lui. Mais on voit très bien ce que ça veut dire. Ce n'est pas le sujet substance, parce que le sujet substance, c'est au-delà du vécu. C'est hors le vécu. Donc ce n'est pas ça. Ce n'est pas le sujet substance. C'est le sujet co-extensible, le co-vécu, co-extensible avec le vécu. C'est dans le vécu le noyau central. Mais c'est dans le vécu. Ce n'est pas au-delà du vécu. Et on pourrait dire ça clairement. Hein. Et pour comprendre, il faut que ce soit clair. Mais c'est comme l'inconscient. Tant qu'on n'a pas précisé ce que c'est, ça reste inconscient. Mais on voit très bien l'inconscient. On fourre tout là-dedans, le capharnaüm. Il faut être tous les balais cassés. Oui, j'étais dedans. Toutes les vieilles casseroles, toutes les vieilles lampes, tout dedans, les capharnaüms. Aujourd'hui, les capharnaüms se vident assez vite. Il y a des capharnaüms, la caisse a saleté. C'est le capharnaüm. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a tout dedans. Si vous voulez ça, un certain temps, ça commence à sentir mauvais. Mais l'inconscient... La personne existe dans ses différents actes. Elle est tout entière présente en chacun. Et c'est la conscience du co-vécu. Elle est tout entière présente en chacun. Elle est ce qui les unifie et les rend concrets. Elle est ce qui donne un sens à toutes mes actions. Ça, c'est moi, j'essaie de comprendre. Alors j'essaie de préciser, et je crois que c'est vraiment ça. La personne existe dans ses différents actes. Elle est présente aux différents actes. Elle est tout entière présente en chacun. Elle est ce qui les unifie, les rend concrets, et ce qui donne à mes actions un sens. Mais la transsubjectivité, c'est au-delà du sujet fondamental, et la personne, elle est présente, et il y a quelque chose de très juste. Je suis présent dans toutes mes activités, et je suis conscient de toutes mes activités. Et toutes mes activités ont leur orientation, je ne dis pas leur sens, mais leur orientation. Et orientation et sens, ça s'identifie. Au fond, on dirait leur finalité, c'est leur sens. Et c'est juste. C'est leur orientation qui leur donne leur sens dernier. La définition essentielle que Scheller donne de la personne est la suivante. Alors, je cite ici. Alors, un petit moment d'attention. La personne est l'unité d'existence concrète. Elle-même, essentielle, essentiale. Il faut dire essentiale. C'est pas essentiel, c'est essentiale. Il y a le A. Vous voyez, comme il y a l'existence et il y a l'existentiale. Il hein? faut comprendre. Elle-même, essentiale, d'acte d'essence de diverses sortes. Unité qui en soi précède toutes les différences d'actes essentiels. Singulièrement, la différence entre perception extérieure et perception interne, vouloir extérieur et vouloir interne, perception affective et amour et haine extérieure et interne. C'est ce qui fait le nœud, nexus, le nœud, ce qui unit l'intérieur et l'extérieur. C'est ça la personne. Il y a quelque chose de très juste, remarquez. Du point de vue descriptif, c'est assez bien vu. Est-ce que ma personne, c'est ce que je pense maintenant? Ou est-ce que ma personne, c'est ce que vous voyez quand je vous parle? Vous ne pourriez rien dire là-dessus. Est-ce que ma personne, c'est mon moi très intérieur? Mon moi interne, très intérieur. Ou est-ce que ma personne, c'est mon moi qui se communique? Ma personne est présente là. Elle est présente aussi à l'extérieur. Et elle fait le nœud. Il est donc clair. Alors, je reprends, j'analyse pour essayer de clarifier. Il est donc clair que la personne ne peut se réduire ni à l'X, d'un simple point de départ d'acte, c'est lui qui dit ça, ni à une sorte quelconque de simple corrélation ou entrecroisement d'actes, c'est encore lui, comme le soutiennent généralement certains tenants d'une conception actualiste de la personne. Donne un petit coup de patte à l'ancienne scolastique qui prétendent comprendre la personne à partir de son faire. Ex operari sequitur esse. Esse ex operari sequitur esse. Cogito ergo sum. Donc c'est le coup de patte Descartes. Non, insiste Scheller, la personne n'est pas un point de départ vide à l'origine des actes, donc une faculté, une puissance, mais bien l'être concret sans lequel, lorsqu'on parle d'acte quelconque, on ne saurait jamais en atteindre l'essence pleine et adéquate. Ce n'est que par leur appartenance à l'essence de telle ou telle personne individuelle que les actes se concrétisent et passe de l'état d'essentialité abstraite à l'état d'essentialité concrète. Vous voyez, c'est le concret, la personne. C'est l'ultime moment concret. C'est bien décrit, hein, c'est, comme description, Scheller est magnifique. C'est vrai, quelle est votre personnalité? Cherchez à la fin de la journée, petit examen de conscience philosophique. Faites ça ce soir. À la fin de la journée, un petit examen de conscience. Quels sont, durant cette journée que vous êtes passé aujourd'hui, les actes où votre personnalité a été la plus forte. Est-ce au réfectoire? Est-ce lorsque vous êtes réveillé? Lorsque vous avez mis un pied par terre? Est-ce lorsque vous avez suivi un cours très difficile à suivre de théologie sur saint Thomas? Est-ce lorsque tout d'un coup, je comprends? Est-ce lorsque vous avez retrouvé un ami, vous avez dit bonjour? Quel est le moment où votre personnalité a été la plus éveillée? Est-ce que votre personnalité fait l'unité de votre journée? Ou est-ce que votre personnalité est en dents de scie? Ah là, oh, ma personnalité est très forte. Ici, je me suis endormi. Puis je me suis réveillé. Ah! Est-ce que c'est en dents de scie? Est-ce qu'il y a une continuité dans votre personnalité? C'est ça que ma chaleur cherche. Ou est-ce que c'est le sujet souterrain? La substance, mon autonomie. Vous voyez, ma chaleur donne un coup très violent, hein, très très violent, à Boès, à toute une tradition, même cartésienne. La substance pensante, c'est la personne pour Descartes. Pas du tout, c'est pas la substance pensante. Parce que la substance pensante, c'est le point de départ de mes actes. Or, la personne n'est pas dans le point de départ de mes actes. Elle a quelque chose d'ultime. Si la personne n'existe que dans l'accomplissement de ses actes, si elle est tout entière présente en chacun de ses actes pleinement concrets et varie tout entière en chacun d'eux et par eux, cela ne veut pas dire que son être même naisse d'aucun de ses actes, ni s'altère comme une chose dans le temps. La personne ne requiert pas davantage un être durable qui se conserverait tel à travers la succession des actes, pour maintenir l'identité de la personne individuelle. Pour Max Scheler, l'identité consiste uniquement ici, dans l'orientation qualitative de ce simple devenir autre lui-même. La personne ne vit ni dans le temps phénoménal, tel qu'il est donné immédiatement dans le flux des processus de l'âme intérieurement perçue, ni dans le temps objectif des physiciens. Et puisque la personne ne réalise son existence que dans le vivre par expérience vécue, de ces expériences vécues possibles, c'est un non-sens que de prétendre la saisir dans ces expériences vécues telles qu'elles se vivent simplement. Tant que nous regardons du côté de ces prétendues expériences vécues, au lieu de considérer le vivre par expérience vécue, c'est l'expression qu'il donne, le vivre par expérience vécue, de ces expériences vécues, la personne nous reste totalement inaccessible. C'est de luisant. Hein. C'est assez joli. Hein. La personne échappe complètement quand vous réfléchissez sûrement sur votre vécu. Votre vécu actuel, c'est pas votre personne. Et on comprend très bien. Puisqu'après, vous allez faire autre chose. Votre vécu maintenant n'est pas le même que le vécu de la récréation, le vécu de l'amitié, le vécu de la prière, le vécu d'une activité artistique, le vécu du travail. Donc, votre personne n'est pas dans le vécu immédiat. C'est le vivre du vécu, de l'expérience vécue. C'est le vivre. Donc, c'est ce qui demeure à travers toutes ces expériences. Puisque la personne est toujours présente. Là, il a raison. Il le dit de façon un peu compliquée. Le mot « personne » est un terme absolu et non relatif, comme le « je », qui se réfère toujours à un « tu », toi, d'autre part, et au monde extérieur également. À la différence du « je vois, je parle, je pense que j'y tourne. À la différence du jeu, ce qu'on vise mentalement en disant « personne » présente un caractère de totalité qui se suffit à soi-même. Scheller entend par « personne » une réalité qui est pleinement indifférenciée par rapport aux oppositions « je » et « tu », psychique et physique. Je et le monde extérieur. La personne peut percevoir son je comme elle perçoit son propre corps et le monde extérieur, mais elle ne saurait être pour elle-même objet de représentation ou de perception, ni pour soi ni pour autrui. En d'autres termes, ce qui appartient à l'essence de la personne, c'est de n'exister et de ne vivre en effectuant des actes de visée intentionnelle. Par définition même, elle ne peut donc être objet. Vous voyez qu'on définit la personne négativement. Dès qu'on dit quelque chose de positif, c'est pas ça. C'est terrible. Donc, c'est quelque chose qui transcende le vécu immédiat. C'est quelque chose qui transcende ce vécu immédiat. Personne est transcendante à tout regard psychologique. Et il n'est aucune psychologie qui, pour constituer son objet, ne commence précisément par faire abstraction de la personne. Ça, c'est très intéressant. Max Scheller considère que le psychisme ou la psychologie ne peut jamais atteindre la personne. Or, c'est la recherche éperdue de toute psychologie. Ça, il le reconnaît. C'est très fort. Je n'ai pas le temps de voir avec vous tout ce qu'il dit sur la personne, mais c'est quand même ça. La personne se définit encore comme conscience concrète de. Conscience de soi, de sa valeur propre, de tous les sentiments du moi, à condition de préciser que ce concept ne s'applique qu'à partir d'un certain niveau de développement et d'une certaine domination par laquelle on est le maître de son propre corps. En ce sens, on comprend comment la personne est condition de toute moralité, de toute responsabilité. Mais la responsabilité n'est pas la personne. C'est grâce à la personne que je suis responsable. Condition sine qua non. En ce sens, on comprend comment la personne est condition de toute moralité. Bon et mauvais sont des valeurs de la personne. Et la personne elle-même est valeur des valeurs. C'est la haute valeur, la valeur fondamentale, la méta-valeur. C'est ça la personne. C'est ce qui est présent à toute personne et qui donne à la personne son sens de valeur. Mais elle n'est pas la valeur. C'est dans l'amour que la personne se révèle à nous et accomplit son salut. Et cet amour se fonde dans l'amour de la personne dans l'amour de la personne des personnes. Personne avec un grand P, c'est-à-dire Dieu. Oui, Max Scheler est religieux, il ne faut pas l'oublier. Et donc la personne, c'est ça, c'est très important et intéressant. C'est dans l'amour que la personne se révèle à nous et accomplit son salut. Et cet amour se fonde dans l'amour de la personne, c'est-à-dire de Dieu, de la personne des personnes. La personne est un être individuel et sa valeur est individuelle. Mais elle est, de façon également primitive, membre d'une personne commune. Là où ça devient très difficile. Vous voyez ? Au fond, la personne humaine ne peut se préciser qu'en fonction de sa relation à Dieu et en fonction de sa relation aux autres. Elle est le nœud de toutes mes relations. Elle n'est pas le fondement. Elle est présente à toutes ces relations. Et elle est la condition sine qua non de toutes ces relations. Alors ça devient terrible. La personne se définit comme une condition sine qua non. Or, une condition sine qua non ne définit pas la personne. Il y a une paix. C'est très intéressant parce que c'est une recherche constante de la personne qui part d'un niveau psychologique qui montre que la psychologie ne peut rien dire sur la personne. La psychologie est toujours liée à la conscience de tel ou tel acte, à une conscience concrète. Alors la personne est plus que ça, parce qu'elle fait l'unité. Elle n'est pas un fondement radical, elle est un noyau central. C'est pour ça que je crois, c'est le terme de noyau. Il n'emploie pas, mais c'est le terme de noyau. Le lien, le nœud, ce qui lie tout. Et la gare de triage. Par où je suis en relation avec Dieu, par où je suis en relation avec les autres, par où je suis en relation avec moi-même. Être en relation avec moi-même ne peut se faire que grâce à ma personnalité. Si je n'ai pas de personnalité, je ne peux pas être en relation avec moi-même. Et en relation avec les autres. Alors, au fond, il ne définit pas